bout du monde. Clémence Denavy.
Bonjour, bienvenue sur RFI, c'est le goût du monde. Asseyons-nous autour de notre marmite, il s'y mitonne, un plat qui nous raconte. Un plat, il s'est construit, il évolue, il raconte l'hier, aujourd'hui et demain. Il goûte les gestes, les apports des uns et des autres, il a le goût de qui nous sommes. Quel rôle joue notre alimentation dans la construction et l'expression de notre identité? Quel est donc notre pot commun? Merci à Laurence Thibert d'avoir mis du grain à penser dans notre moulin. Bonjour et bienvenue Laurence.
Bonjour.
Vous êtes, Laurence, sociologue, professeure des universités détachées à l'IRD, l'Institut de Recherche pour le Développement. Vous pensez et regardez ce que notre alimentation dit de nous. Vous êtes à La Réunion, c'est-à-dire à des milliers de kilomètres du studio où je me trouve. Mais j'aimerais bien quand même que nous partagions un repas ensemble, si vous en êtes d'accord.
Je suis partante, avec plaisir.
Alors où est-ce qu'on serait? Quelle serait la température, l'heure de la journée? Est-ce qu'on serait dans la nature? Avec qui et qu'est-ce qu'on mangerait?
Alors, c'est difficile comme question, hein. Il y aurait beaucoup de possibilités. Je suis gourmande en plus. Je choisirais un asile EMAC à Kuala Lumpur, pas très loin de mon bureau à l'université, là où j'ai vécu pendant quelques années. Et c'est un plat que je partagerais avec une amie, des amis, donc avec vous, comme je l'ai fait, ou avec des collègues. Et c'est un plat très particulier déjà parce que il est emballé dans la façon dont nous on l'a acheté. C'est une petite pyramide qui est faite de riz, de concombres, d'anchois, de morceaux de gingembre, de cacahuètes grillées, d'œufs. Et il est cuit dans une feuille de bananier, dans la façon dont moi je l'ai acheté avec mes collègues, à des vendeurs ambulants. Et ensuite on l'installe sur la table. On ouvre ces feuilles de bananier et là il y a toute l'odeur en fait. C'est ça en fait qui me plaît. L'odeur du pandanus là, du lait de coco, de l'anchois. C'est à ça que je pense. Et puis il y a tout petit le bruit qu'il y a autour, des gens qui parlent, cette ambiance alors assez humide et assez chaude de Kuala Lumpur. Voilà ce que je veux partager avec vous.
Eh bien, écoutez, je vous remercie de votre invitation, Laurence. Je voudrais savoir, quelle est cette langue que permet la cuisine?
C'est une langue universelle que nous partageons tous, qui nous permet à la fois, bien sûr, de nous nourrir, hein, évidemment, mais qui nous permet aussi de dire qui nous sommes et qui, moi, ce qui m'intéresse particulièrement, qui nous permet à la fois de nous différencier, voire même de nous opposer, ou de nous séparer, et de nous rassembler, et de nous identifier en tant qu'appartenant à un même ensemble. Ça, je trouve ça passionnant.
La question que je me posais, c'est en quoi est-ce que, je l'ai dit en tout début de cette émission, en quoi est-ce que la cuisine est indissociable de la construction de nos identités?
Ben, elle l'accompagne déjà parce que quand on mange, on incorpore des choses qui dépassent largement le nutritionnel. On incorpore du sens, des symboles, de l'affect. On incorpore aussi le groupe, on marque notre appartenance à un groupe. On construit en même temps, on renforce, on nourrit tout cela. Et la cuisine, c'est quelque chose qui marque et qui signe notre humanité, en fait. Elle dit notre humanité et les manières particulières dont on la vit.
Est-ce qu'elle est encore plus importante dans les sociétés multiculturelles, où toutes les cultures se mêlent?
Je pense qu'elle a, dans ces contextes-là, un statut et un rôle très particulier, et pour moi en tout cas, particulièrement intéressant et important. Oui, parce qu'il y a dans la cuisine, bon, ce que j'appelle moi en tout cas, l'en commun.
L'en commun.
Voilà, un en commun. Alors, je pense qu'il y a d'autres formes d'en commun, dans la musique. Peut-être même dans l'humour, il y a d'autres formes d'en commun dans les sociétés multiculturelles ou multiculturelles, on va dire, au niveau ethnoculturel. Dans les imaginaires, l'en commun se dessine déjà dans la façon dont on considère qu'un plat, une préparation, une manière de faire, un ingrédient, forme un consensus total, au-delà des différences. Je suis à La Réunion, donc je vais parler déjà pour commencer de la cuisine créole réunionnaise. qui est considéré comme, avec la langue en particulier, ce qui marque l'appartenance et l'identité commune réunionnaise. Et ce qui me paraît intéressant, c'est que les femmes et les hommes que je rencontre et avec qui on travaille sur ces questions-là trouvent toujours des valeurs évidentes, dit pourquoi ça nous appartient à tous ou pourquoi ça nous représente tous. Par exemple, à La Réunion, les réponses sont, mais c'est parce que chacun y a contribué. Les Européens, les Asiatiques, les Africains, les Malgaches, tous ont apporté quelque chose et ont en quelque sorte contribué à construire cette usine. C'est un des arguments, c'est pas le seul, mais c'est un des arguments. Et on peut trouver ce type de processus pour le Thiéboudienne au Sénégal, pour le Nasi Lemak en Malaisie, pour le Dolpouri à Maurice. C'est quelque chose, je pense, qui, dans ces sociétés-là, qui s'assume, hein, en tant que société multiculturelle, plurielle, quelque chose qui est invariant.
Et qui crée un socle commun entre les différentes identités et cultures qui composent cette société.
Oui, tout à fait. Ça crée un socle commun. Alors, je le disais dans les imaginaires, mais il y a un vrai travail derrière de l'histoire, de la façon dont les sociétés ont vécu, par exemple, à La Réunion, cette cuisine créole, elle a permis aussi bien à l'esclave, le maître, l'Indien qui est arrivé un peu plus tard et qui est arrivé en tant qu'engagé, elle a permis à chacun d'exprimer une partie de lui-même en l'incorporant dans ce qui existait. Et je pense qu'il y a, en plus des imaginaires, il y a quelque chose qui s'est construit au fil du temps et qui a été petit à petit considéré comme créant et formant un socle commun.
Vous avez comparé la cuisine à la langue. Vous avez parlé de cuisine créole, qui est une langue à part entière. Dans cette analogie, il y a tout l'aspect qui est vivant. Elle continue de se créer. Est-ce que cette notion de vivant qui se perpétue?
Oui, tout à fait. Je verrais ça plutôt comme une matrice qui s'enrichit avec le temps, qui se transforme, et comme une langue, s'agrègent des choses sur cette matrice qui traduisent aussi et reflètent la façon dont la société vit. La cuisine comme la langue sont vivantes comme la société. On peut comparer la cuisine à une langue aussi parce qu'il y a une syntaxe qui évolue, il y a une grammaire, il y a des formes de vocabulaire. Je ne vais pas repartir sur Lévi-Strauss ou ce qu'il peut poser comme analyse. Et puis ça exprime des choses parfois très profondes, parfois même qui sont inconscientes, comme une langue.
Un des articles que je mettrai évidemment en lien sur la page de cette émission où vous faites ce rappel inconscient des gens, notamment pour la culture musulmane. Et cette femme qui prépare son riz et qui mélange ce riz, qu'il nettoie et qui utilise sa main droite.
Alors qu'il utilise en fait ses deux mains. C'est-à-dire que dans la manière créole, réunionnaise, quand on lave le riz, on le lave à deux mains. Et donc, j'ai d'abord un échange avec cette femme, qui est effectivement réunionnaise, musulmane, qui me dit, bah tu sais, moi quand je lave le riz, c'est toujours avec la main droite, et qui m'explique en fait que ça, c'est une règle, hein, quand on est une règle de l'islam. Et quand je la regarde faire et qu'on parle d'autre chose, elle lave avec ses deux mains. C'est tout vraiment intéressant de voir comment le corps incorpore aussi ces choses-là en lien avec la manière de faire la cuisine. Et il y a là-dedans aussi un pattern créole.
Et qui en fait sa spécificité. Ce qui est intéressant aussi, c'est la manière dont cette cuisine créole va permettre aux uns et aux autres de se sentir appartenant à cette cuisine et en même temps en se distinguant parfois de cette cuisine.
Oui, c'est intéressant, hein, de voir comment on peut être sur deux registres en même temps. C'est-à-dire que la cuisine créole, mais c'est valable aussi pour le Nasi Lemak ou d'autres, hein, permet à la fois de dire c'est une cuisine que j'aime. Il y a toujours de l'attachement en fait à l'en commun, toujours un attachement fort. C'est une cuisine que j'aime, c'est ma cuisine, c'est notre cuisine, mais d'une part, je peux l'aménager en fonction d'un certain nombre de choses. Par exemple, je peux faire un rougail saucisse avec des saucisses de poulet ou avec halal ou pas halal. Je peux faire un plat qui est considéré comme un plat extrêmement emblématique réunionnais, mais en l'organisant parce que je suis végétarien. Et puis à côté de ça, Il y a les plats spécifiques à certaines fêtes qui permettent de continuer à faire vivre à travers les nourritures ce qu'on considère comme étant des traditions du pays qu'on considère aussi d'origine. Donc cette matrice dont je parlais tout à l'heure, la cuisine créole, elle permet des aménagements, elle permet des positionnements aussi identitaires, de dire on appartient à un groupe, mais en même temps on a des spécificités qu'on entretient.
Quand on parle de cuisine, on peut parler d'un ingrédient, on peut parler d'un mélange d'épices, d'un plat. Est-ce qu'il va y avoir des codifications de la manière dont on va qualifier cet en commun? Je pense au massalé, par exemple, qui est un mélange d'épices. Ça va être un en commun?
Alors, le massalé est un exemple intéressant parce que il a été incorporé, intégré à la cuisine créole réunionnaise. En fait, il y a à peu près, je sais pas, peut-être une trentaine d'années ou une quarantaine d'années de façon très claire. Mais pendant longtemps, il a été associé spécifiquement au Malbar, c'est-à-dire aux réunionnais hindous originaires d'Inde. Et c'est un bel exemple parce que on voit comment aujourd'hui, il est considéré comme faisant partie prenante vraiment complètement de la cuisine créole. Tous les Réunionnais utilisent du massalé. Et on peut donner l'exemple pour les samoussas qui ont été amenés par les Indiens musulmans, que certains appellent le plat national réunionnais, ça m'amuse toujours. Les bouchons, qu'on appelle les bouchons, c'est-à-dire des beignets à vapeur qui ont été amenés par les Réunionnais d'origine chinoise. Les nems, qui en fait sont vietnamiens, mais qui ont été amalgamés avec la restauration. La restauration a joué un rôle très important, je pense, hein, et qui aujourd'hui sont aussi considérés comme un plat national réunionnais. Donc il y a cette capacité d'absorber qui est vraiment intéressante.
Et à modifier
Oui.
les recettes et les faire changer pour qu'elles soient encore contemporaines et qu'elles soient dans nos vies complètement inscrites en réalité.
Oui. Là aujourd'hui, je pense qu'il y a, puisque vous parlez de l'époque contemporaine, la question que je me pose en tant que sociologue, c'est à la fois le statut de cette cuisine. Je pense qu'il n'a pas changé. C'est toujours un en commun. C'est même peut-être encore plus un en commun parce qu'il y a des craintes ou des inquiétudes par rapport à la globalisation. La question que je me pose, moi, c'est à quel point elle est cuisinée par les Réunionnais, par exemple, si on reste sur la cuisine créole réunionnaise. Est-ce qu'on sait encore cuisiner ou est-ce qu'on la cuisine aussi souvent qu'avant? C'est une vraie question et je pense que on la cuisine moins souvent. On la cuisine peut-être à certaines occasions. On la cuisine le week-end, mais en semaine on la mange parce qu'elle est vendue dans des camions, elle est vendue dans des pour des gens qui travaillent par exemple sur leur lieu de travail. Elle est livrée, mais elle est moins cuisinée en fréquence.
Sa place sociale a
Elle
changé.
fait.
Elle est allée dehors, alors qu'elle était dedans, peut-être plus intime.
Exactement. Comme le nasi lemak est allé dehors en Malaisie, on le trouve beaucoup dans la rue. D'ailleurs, les gens, quand on leur demande pourquoi le nasi lemak a ce statut-là, finalement, que moi j'appelle en commun, ben ils me disent, hein, c'est vraiment très fort. Hein. C'est parce que d'abord, c'est accessible à tous financièrement, et ensuite, c'est accessible à tous parce que c'est dans la rue. On peut facilement le trouver, se faire livrer. Et l'autre chose, c'est que c'est adaptable à toutes les religions et à tous les goûts.
Lay back like a Commodore, keep it easy like a Sunday morning. Fair girls, red pompadour. When I chill offshore. I sleep eight despite the war. That way I can fight some more. Fight for peace, seeps out my pores. I put in work before the storm.
Bendia, Arat Kilo et Mamani Keita, le nouvel album d'Anama qui sort dans un mois, le son de la radio du monde qui donne la chair de poule. Une sélection de l'équipe de la playlist de RFI. Bienvenue si vous nous rejoignez, vous écoutez Le Goût du Monde. Massalé, bouillabaisse peut-être, un dolé ou bien un rougail. Que racontent ces plats de notre histoire et de la construction de nos sociétés? Quel rôle joue notre cuisine dans la construction et l'expression de notre identité? Nous en parlons avec Laurence Thibert, sociologue, professeur des universités détachées à l'IRD et à la Réunion.
Le goût du monde avec Clémence Denavy.
Laurence, on a parlé depuis le début de cette émission de plats, de cet en commun qui raconte les identités des uns des autres qui se sont mêlés et qui s'expriment encore plus dans les sociétés multiculturelles. Je me suis demandé s'il y avait donc des plats, peut-être des épices, une cuisine entière comme la cuisine créole et peut-être un jardin comme l'avait suggéré le cuisinier guadeloupéen Jérôme Bertin.
Alors pour moi, j'ai pas vraiment de plat qui signe mes traditions, c'est vraiment pour moi les produits locaux en fait. J'ai vraiment le souvenir avec mon père, avec son petit jardin, les légumes, les fruits, les herbes, tout ça. Et entre voisins, il y avait cette sorte de troc qui faisait, c'est-à-dire qu'il y en avait un qui ramenait de la patate douce, son voisin qui ramenait du bois d'Inde, tout ça. Et pour moi, qui me ramène vraiment à mes traditions, à ma culture, au niveau de la gastronomie, ça va être vraiment le potager de mon papa, en fait. Voilà.
Le potager de son papa, Laurence Thibert. Qu'est-ce que vous comprenez quand vous entendez ça?
Ah, moi, je comprends tout. Je me rappelle du potager de ma grand-mère, de mon papa, de ma mère. Les jardins créoles sont des lieux qui permettent vraiment de comprendre la société créole. Quand vous regardez un jardin créole, la cour, nous on appelle ça la cour, hein. Alors ça, c'est un espace qui est un peu fourni. On peut pas dire que ce soit le jardin très très bien organisé au cordeau. Il y a de tout partout. Mais là-dedans, vous avez des choses pour vous nourrir, des choses pour vous soigner et soigner les autres, et des choses pour vous protéger ou pour faire peur. Parce que les plantes ont aussi cette dimension à la fois totémique, symbolique et magique. Et donc, un jardin créole, c'est magique. Voilà, voilà à quoi ça me fait penser.
Et qui connaît son jardin sait sur quelle terre il est également. Je trouve que cette idée du jardin, elle enracine, mais pas uniquement sur le plan de l'imaginaire, c'est parce qu'on sait qu'est-ce qu'on va pouvoir cuisiner? Qu'est-ce qui est à portée de main? Et qu'est-ce qui nous fait?
Oui, oui, tout à fait. Quand on connaît son jardin, on maîtrise quelque chose du monde, en fait, très clairement. Et il y a quelque chose qui a été évoqué hein, dans cet exemple guadeloupéen, c'est ce qu'on partage autour du jardin. Des choses qu'on donne, voilà, des choses qu'on va recevoir. Alors, il y a des fruits, il y a des plantes. Il y a des feuilles, il y a des braides, par exemple à La Réunion, ça peut être des braides, ça peut être des légumes, mais il y a aussi des graines qu'on va pouvoir planter. C'est tout cet espace-là de sociabilité, d'interaction, d'échange, de partage, d'interconnaissance. Ça, je trouve ça passionnant.
Justement, quand vous dites le partage, être ensemble, est-ce que cet en commun, il est structuré aussi sur la façon dont on va manger? Je pense à votre feuille de bananier au tout début de l'émission. Est-ce que ça fait partie aussi de l'en commun? Comment on mange? Avec qui? À quel moment de la journée? Est-ce qu'il y a des jours particuliers qui seront privilégiés pour cet en commun, pour partager une nourriture spéciale à ce moment-là?
Alors, il y a des repas de fête qui marquent plus particulièrement l'en commun. La feuille de bananier, je trouve que c'est un des contenants, j'ai envie de dire, végétal, qui marque bien l'en commun. Parce que on a l'habitude aujourd'hui à La Réunion, par exemple, lors des pique-niques, lors de certaines fêtes où on mange certains plats particuliers, je pense au tang, par exemple. C'est un petit animal, un peu comme le hérisson, qu'on va manger très souvent sur une feuille de bananier avec les doigts. Et il y a donc des rituels qui vont réinscrire, réactualiser et marquer cette appartenance et cette connaissance partagée autour d'un plat et d'un univers culinaire. Et puis, il y a des moments particuliers et qui sont à la fois marquants pour une composante ethnoculturelle, mais qui, pour moi, permettent de construire très concrètement des liens entre les différentes composantes. Par exemple, le service Malba, un repas qui est servi sur des feuilles de bananier. On est invité, on partage ce repas qui a été béni, puisqu'il est d'abord offert aux dieux, aux divinités. Ensuite, on s'assoit et on le mange tous ensemble, avec les doigts, avec toutes les personnes qui sont là. Et c'est pour moi un espace où on trouve des hindous, donc des malbars, mais aussi les autres composantes de la société. Ce sont des moments importants pour le lien social entre les différents univers ethnoculturels.
Est-ce qu'il va y avoir d'autres repères dans cette construction autour de ces temps communs?
Il y a la musique. Alors, ça dépend des fêtes, ça dépend des, par exemple, la dernière fête d'anniversaire ou de baptême à laquelle j'ai participé, qui était vraiment très créole, réunionnaise. Le Ségal, le Maloya, ils sont là. Il y a des séquences, en fait. On va commencer par certains plats, et puis après, on va danser. Il y aura de la musique, et puis après, on va remanger un peu, et puis après, on va redanser. Donc, déjà, dans cette ambiance-là, créole, réunionnaise, la musique est très importante.
Quand on part, quand on va vivre loin de ses origines, comment est-ce qu'on fait pour rapporter tout cet en commun avec soi? Ça doit être une quête permanente.
C'est un bon terme, je trouve, le mot quête. Ben, moi, j'ai fait une thèse, par exemple. Je pense, par exemple, aux étudiants, hein, qui vont réunionnais, qui vont faire leurs études en métropole ou ailleurs, dans l'Hexagone ou ailleurs. Ils ont la chance aujourd'hui d'avoir le lien à travers, ben, déjà des boutiques, des lieux de commercialisation de ces produits qui sont accessibles finalement et qui leur permettent de refaire à la cuisine de leur pays. Alors, ils appellent maman, ils appellent papa, ils appellent la grande sœur pour avoir les recettes, etc. Ensuite, il y a un système de colis aujourd'hui qui fonctionne très bien, dans lequel on envoie du boucané, on envoie des saucisses, des épices, du piment. Je pense que ces moments-là où on est un peu exilé sont aussi des moments d'innovation. On va faire avec certains produits et pas d'autres. Du coup, on va être obligé parfois parce que on n'a pas accès à tous les produits très vite, ou alors ils sont un peu chers. Et donc, on va inventer des recettes d'une certaine manière tout en gardant le socle.
J'avais une question concernant ces changements climatiques, ces changements de société, et donc ces plats qui sont de fait menacés parce que le poisson va manquer, ou alors les plats sont jugés trop gras, donc pas bons pour la santé, donc plutôt à éviter. Comment est-ce qu'on fait quand on doit éventuellement changer la recette et cependant conserver le plat? Parce qu'on doit conserver ce plat.
Oui, alors ça, c'est une grande question parce que je regarde, je pense par exemple à l'Ethiopie, à la pénurie de poissons qu'a connue le Sénégal récemment et encore aujourd'hui, avec à la fois le réchauffement climatique, la surpêche. Ça a été vraiment quelque chose d'une crise presque culturelle, avec à la fois des groupes qui s'interrogeaient, qui se sont mis en action pour réfléchir à des manières de substituer aux bons poissons, de trouver d'autres poissons, poissons séchés, poissons peut-être un peu moins appréciés, mais qui pouvaient être plus accessibles. Donc, on trouve des solutions. Il y a aussi cette grande question de la modernité et du rapport à la santé, où là, on se dit, mais le bouillon cube, ben, comment faire pour diminuer un petit peu la place du bouillon cube, ou intégrer des bouillons cubes de moins salés, par exemple.
Mais ça change le goût.
Alors ben oui, ça change le goût. Ben le but c'est vraiment ça en fait, c'est tout le travail pour à la fois ne pas trop s'éloigner de ce qu'on considère comme le goût et la signature, et puis en même temps trouver un équilibre avec des valeurs qui sont devenues des valeurs importantes ou avec un contexte qui a changé. C'est ça aussi le travail autour de l'en commun. Et l'attachement est tellement fort, que ce soit au Kéboudienne, à la cuisine créole, au Nasi Limat, qu'il y a un vrai effort à différents niveaux de la société. Et là, les chefs ont aussi un rôle, hein, ils jouent un rôle pour justement réfléchir et travailler sur ces questions-là.
Vous avez parlé du dal puri parce que
Oui.
c'est une galette de lentilles.
À Maurice, en ce moment, c'est une galette de farine. Et donc, le puri et le dal est à la base quelque chose qui contient des lentilles ou des dalles, hein, donc, et puis du carré de légumes, très souvent. Mais aujourd'hui, dans certaines familles ou dans certains endroits, on y rajoute du carré de viande, par exemple.
Parce qu'il a une place assez symbolique aussi. C'est un en commun très fort, je crois, à Maurice notamment. Est-ce qu'on sait toujours le préparer? Est-ce que il fait partie toujours des cuisines du quotidien familial ou lui aussi est allé dehors?
Ah, il est allé dehors. Parmi les personnes que j'ai rencontrées qui préparent le dal puri, ce sont presque des spécialistes. y compris des femmes hein, qui en ont fait un métier, une activité commerciale et professionnelle, qui du coup le font en tant que traiteur. Mais le dal puri est dans la rue aujourd'hui. J'ai vraiment en souvenir le fait de faire la queue pour attendre le moment de la pause du déjeuner. C'est énorme hein, de voir l'affluence pour acheter son dal puri. Il est dans la rue aujourd'hui, plus qu'à la maison. L'héritage, il est inscrit dans cet extérieur, hein, ce manger dehors dont on parlait. Et les Mauriciens considèrent que, de toute façon, ça, c'est un espace de leur culture, un trait, un point de leur culture qui est indéniable pour eux. Il y a d'autres plats qui fonctionnent de cette façon-là. Je pense par exemple aux mines, les mines chinoises, les nouilles chinoises qu'on vend aussi dans la rue, qui ont une place très importante également. Et puis du coup, à la maison, on va faire d'autres choses, on va faire des ragoûts, alors peut-être pas tous les jours, mais on va faire des ragoûts, des plats, par exemple, comme le biryani. Je m'intéresse au dal puri, enfin, en tout cas, je suis assez attentive parce que je me dis à quel moment il va y avoir ce point-là, qui est vraiment important dans les encombrants, où on dit, attention, il y a un danger, il faut qu'on l'inscrive quelque part, et très souvent, l'inscription à la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO intervient. Pour le Thiboudienne, c'est ce qui s'est passé. Le Nazilémac, c'est ce qui est en train de se passer en ce moment. On a une réflexion à la Réunion là-dessus. Et pourquoi pas, peut-être que demain, le dal puri, il va y avoir des gens qui vont prendre en main cette question en se disant comment on peut faire pour préserver ce qu'il y a de meilleur dans le dal puri.
La sauvegarde.
Voilà, ça pourrait.
Je vous remercie beaucoup. Merci Laurence.
Merci à vous.
Merci Laurence Thibert. Vous êtes sociologue, professeur des universités détachées à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement. Les liens pour vous suivre, pour vous lire, sont sur la page de l'émission. Vous y trouverez aussi une recette de rougail ou bien de dal puri. Qu'est-ce qu'on met comme recette, Laurence?
Je pense que c'est une très bonne chose. J'ai un projet là qui s'appelle Oralim, qui concerne La Réunion, Maurice et Rodrigue. Et sur le site de ce projet, on va mettre des recettes de dal puri. Alors c'est pour ça que, notamment, hein, mais plein d'autres recettes. Alors c'est très bien.
Eh ben formidable. Quel plat, quel en commun aimeriez-vous partager et nous faire découvrir? Pourriez-vous nous le raconter? Pour ça, c'est facile. C'est sur l'adresse de l'émission lgdm@rfi.fr, puis bien sûr sur les réseaux sociaux. Je rappelle juste que cette émission a été conçue et imaginée en écho au colloque de la chaire Alimentation du Monde qui s'est tenu à Montpellier autour cette année des alimentations africaines. Le lien pour suivre le colloque, le revoir en replay est également sur la page de l'émission. Merci beaucoup à Guillaume Munier pour la réalisation et la mise en onde de ce Goût du Monde. Nous vous souhaitons à tous une très très bonne semaine. À la semaine prochaine.